Vous écoutez RTL.
RTL.
Depuis juillet 2014, la prison de la santé à Paris a fermé ses portes.
Il pèse sur les lieux l'angoisse humaine. Pas seulement parce qu'il est, resserré dans un espace très limité, mais parce qu'il y a cette incertitude sur ce qui va être son sort judiciaire.
La curiosité est un vilain défaut.
Jugé par la Cour européenne des droits de l'homme indigne de recevoir des prisonniers, la santé doit se refaire une beauté.
Jusqu'à 22h, Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
C'est l'histoire d'une prison que l'on vous raconte maintenant sur RTL avec l'historien et sociologue Michel Fils. Vous publiez un article sur cette prison de la santé dans le magazine Historia. C'est en partenariat avec RTL. Et puis on a entendu la voix de Robert Badinter. Il signe la préface de votre livre La prison sur la prison de la santé qui est publié chez Buchet-Chastel. Une prison dans la ville, l'histoire de la prison modèle de la santé. C'est ce livre qui a servi de base évidemment à la rédaction de cet article. Donc on est en 1867, 20 août 1867. La prison de la santé est inaugurée en grande pompe, j'imagine. C'est un événement à Paris.
Ah oui, complètement. Alors c'est la 11e prison de la capitale. Mmh. Ça paraît aujourd'hui surréaliste d'avoir autant d'établissements pénitentiaires dans notre bonne capitale.
Dernière, il y en aura plus d'autres après.
Ah non. Non.
On construira plus de prisons parce que intramuros.
On décidera que finalement la place naturelle des prisons, c'est plutôt dans les champs, loin des regards. Hein, c'est l'objet indigne, celui qu'on ne veut pas voir. Hein, alors que là, on était plutôt dans la perspective que c'est au contraire le lieu que l'on doit voir pour ne pas être tenté par des illégalités, quelles qu'elles soient. Donc, elle avait ce rôle symbolique d'effroi. Hein, les grands murs, quand même, ça ne donne pas évidemment envie de se retrouver derrière des murs en meulière, donc c'est un peu glaçant. Alors surtout que quand ça vieillit, évidemment, ça noircit très très rapidement.
C'est trois ans de travaux, la prison de la santé, c'est ça?
Alors c'est trois ans de travaux. Ça a commencé en 1864. Il y a eu des négociations difficiles parce qu'il y avait différents interlocuteurs dans cette affaire. Donc il fallait mettre tout le monde d'accord, le département, la préfecture de police, les services pénitentiaires. Alors finalement, on est tombé d'accord d'abord sur cet emplacement. 25 000 mètres carrés, ça permettait de faire ce qui va être, je crois, le but de cet établissement, un laboratoire grandeur nature. Voilà, on va loger là finalement toutes les dernières technologies, toutes les avancées dans tous les domaines d'ailleurs, que ce soit sur le plan hygiénique ou sur le plan également comptable. Voilà, parce que c'est une époque, le 19e siècle, depuis le premier tiers, on compte beaucoup, on dénombre, on compte tout. C'est-à-dire qu'on fait aujourd'hui des documents pénitentiaires qui n'ont plus rien à voir avec ceux de l'époque. C'est un lustre de raffinement. Il faudrait d'ailleurs un temps fou, il faudrait vraiment l'informatique pour exploiter tous ces registres d'écrou, qui comportaient encore une fois il fallait vraiment tout contrôler.
Pour bien comprendre, cette prison de la santé, elle est instaurée comme un modèle, mais ça veut dire qu'elle ressemblait à quoi, les prisons parisiennes jusque-là?
Les prisons, c'était des récupérations, si l'on peut dire, d'anciens couvents, d'anciens monastères, d'anciennes églises. Finalement, on considérait qu'on n'avait pas à loger les détenus, évidemment, dans des établissements hors normes. Ouais. Voilà. Donc, rebut de la société, déchets de la société, donc bâtiments appropriés.
Alors, les Parisiens connaissent la réponse à la question, mais pour ceux qui sont pas allés dans ce quartier du 14e arrondissement, pourquoi elle s'appelle la prison de la santé?
Alors, parce qu'elle est à côté de la rue de la santé.
Bon, tout simplement.
Mais santé qui n'a rien à voir avec, évidemment, la bonne santé. Oui. Voilà. Mais je trouve que c'est quand même un sérieux coup du hasard.
D'avoir... Puisque vous disiez qu'il y avait toutes les théories hygiénistes de l'époque qui s'y appliquaient, c'est ça?
Ah oui, voilà. Là, il y a quand même une obsession de la purification du corps et de l'âme du prisonnier. Donc, il y a tout dans cet établissement. Il y a tout ce qui est moderne. Le chauffage, la ventilation, l'aération, une température que l'on maintient constante, hiver comme été. Donc vous êtes sûr, si vous êtes détenu, vous n'aurez pas moins de 14 degrés. ni en cellule, ni dans les ateliers. Mmh. Voilà, donc, évidemment, on peut concevoir que ça puisse choquer les personnes extérieures, les honnêtes gens, comme
alors,
on dit.
Alors, justement, la presse, elle réagit comment à la création de cette prison de la santé qui est une promesse de prendre soin des prisonniers?
Ben, il y a eu effectivement une réaction un peu d'indignation quand même. Hein. Quel confort quand même, alors que les Parisiens sont loin d'avoir évidemment le nécessaire, hein, qu'on vit dans des cloaques. Hein, c'est encore l'époque où on balance les eaux de vaisselle par-dessus la tête des gens à partir de sa fenêtre.
Pourtant, il y a eu les travaux du baron d'Haussmann qui viennent de se terminer, 1867. Donc, ça veut dire que les Parisiens, certains ont bénéficié de meilleures conditions, mais les plus pauvres ont été sortis de la ville.
Bien sûr. L'architecture haussmannienne ne bénéficie pas à toutes les catégories de Parisiens. C'est-à-dire, les quartiers populaires vont être exilés. Hein, ça va être le déplacement vers les banlieues. Voilà. Ouais. Les banlieues vont devenir ces lieux où on avait auparavant, toutes sortes de personnes, mais pas les milieux les plus modestes.
Mais sur la réaction de l'opinion publique de l'époque, on est en 1867, finalement ça change pas. C'est-à-dire que le discours sur « ils ont trop de confort, ces détenus dans leur prison », on l'entend encore aujourd'hui.
C'est ce qu'on a entendu à partir de 68, quand on a ouvert cette autre prison, alors dans les Champs, la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, qui était évidemment un luxe également.
Donc là, on est un siècle plus tard, 1968.
Voilà, 1968, oui, pratiquement un siècle plus tard. Voilà. Mmh. Et là, c'est vrai que quand on a commencé à faire des réformes pénales pour effectivement rapprocher un peu la vie des détenus de la vie des gens ordinaires. Hein. Je me souviens à l'époque, je travaillais aussi à côté de Robert Badinter qui était garde des Sceaux. Voilà. La télévision en détention, c'était inconcevable. Voilà. Et donc on a crié aux prisons 3 étoiles, 4 étoiles, voilà, donc pour dénoncer effectivement ce luxe qu'on offrait à des détenus qui ne méritaient que l'enfermement, l'isolement, voilà, et certainement pas ce minimum de confort.
Michel Fils, dans votre livre « Une prison dans la ville », histoire de la prison modèle de la santé, vous racontez que les architectes ont suivi un modèle venu des États-Unis pour créer cette prison.
Oui, alors c'était l'époque, le 19e siècle, où on pensait la prison. Voilà, où il y avait une réflexion sur les philosophies pénitentiaires très constante. Voilà. Et donc, effectivement, il y avait deux systèmes en compétition qui venaient des États-Unis. Le système qu'on appelait pennsylvanien, voilà, qui était un régime d'isolement de nuit comme de jour, donc très très dur, car c'était l'enfermement de chacun dans une cellule individuelle.
Les prisonniers se côtoient, c'est ça ?
Voilà, ouais. Sans que les prisonniers se côtoient. Il y avait tout un système de surveillance qui permettait aux détenus d'assister à la chapelle ou d'assister au cours sans bouger, effectivement, de sa cellule. Je raconte tout ça dans le livre, naturellement. Voilà. Et puis, le système donc auburnien, qui lui était un mélange, c'est-à-dire c'était l'encellulement la nuit, mais le travail en commun le jour, mais en silence. Voilà. Et la santé a fait la conjonction des deux.
Elle mélange les deux. On va continuer de visiter la prison de la santé. À cette époque, Second Empire, 1867-1870. Restez avec nous sur RTL.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
La curiosité, ce soir, de découvrir l'histoire de la prison de la santé en travaux depuis juillet 2014. Mais avant d'être vétuste et surpeuplée, c'était un établissement modèle, comme nous le raconte Michel Fils dans un article du magazine Historia en partenariat avec RTL. Et quand on ouvre ce magazine et qu'on aborde cet article, il y a une photo absolument incroyable. C'est une photo qui date de quand, Michel Fils ? Qu'est-ce qu'elle montre, cette photo de la prison de la santé ?
Alors d'abord, c'est la prison dans les toutes premières années. Hein, je crois même que ça doit être la première année. Voilà, donc elle montre effectivement un certain nombre de détenus. Hein, donc en situation finalement assez décontractée. Oui. Assez décontractée, bon, dans un milieu qui est plutôt accueillant. Hein,
on dirait presque une cour d'école.
Voilà, c'est ça. Tout à fait. Alors je dirais presque en mieux, quelque part. Hein, parce que bon, il y a encore une fois dans cet établissement un raffinement. Vraiment, je crois que le côté laboratoire, c'est on a voulu tester tout ce qu'il y avait de nouveauté dans cet établissement.
Ce que vous décriviez tout à l'heure, rapidement, mais on peut peut-être rentrer un peu dans le détail, la ventilation, le chauffage, l'eau, l'éclairage, un tout à l'égout par exemple,
il y avait ça ? Ah oui, alors un tout à l'égout. Alors il y a d'ailleurs une histoire très très amusante avec le tout à l'égout, puisque bon, il n'y a pas eu énormément d'évasion à la santé, hein. C'est pas l'établissement où tout on s'est évadé le plus, mais la première évasion s'est produite par les égouts. Par le tout à l'égout. Voilà, quel symbole cette évasion. Alors ensuite, il y aura des évasions plus spectaculaires, notamment celle de Mesrine, évidemment. Voilà.
Alors, on y viendra tout à l'heure, oui. À l'évasion de Jacques Mérine. Ou Mesrine, je ne sais plus comment on prononce.
On peut dire les deux, je crois.
Si on rentre dans une cellule, à l'époque, ça ressemble à quoi ? C'est basique quand même, une cellule de la prison de la santé en 1867.
Alors il y a aussi une photo dans l'article, qui est une très belle photo parce que c'est effectivement la situation de l'époque. Hein. Donc vous avez alors un mobilier qui est mi-scellé et mi-rabattable. Hein, donc vous avez un lit qui se replie dans la journée, de manière à laisser de l'espace. Hein, donc toujours cette idée de purification, hein, d'aération, de ventilation, de ne pas attraper de maladie, ce serait le comble. Hein.
Il y a un petit bureau ?
Alors, il y a un petit bureau, il y a un tabouret. Voilà, il doit y avoir même un siège d'aisance quelque part, hein, donc pour ses besoins. Alors, pas la toilette. Hein. La toilette, il y avait un lavoir, comme on disait, abrité à l'extérieur. Voilà. Donc, mais c'était le seul endroit où effectivement on ne trouvait pas ça sur place. La seule chose qu'on ne trouvait pas sur place.
Ce qui est passionnant, c'est que le rôle social de la prison va évoluer au 19e siècle. On parle de rédemption et après on va parler de quoi ? De réinsertion, réadaptation ?
Alors, on va parler... Alors, on a d'abord beaucoup parlé dans ces années-là, qui sont quand même encore des années pieuses. Hein. Rappelons-nous, nous sommes sous le Second Empire. Mmh. Donc, on parle d'amendement. Voilà. Ah oui. Donc, il faut ramener vers le bien ces brebis égarées. Hein, pour employer cette expression très, très catholique. Voilà. Ensuite, bon, quelques décennies plus tard, en 1945, on parlera de réadaptation. Voilà. Donc, faut réadapter le détenu. Et puis, dans les années 70, nouveau vocabulaire, qui est d'ailleurs toujours celui d'aujourd'hui, la réinsertion. Voilà. Qui, du reste, est toujours affichée comme une des fonctions principales de la prison, qui doit à la fois punir et réinsérer. Alors, bon, punir, elle sait à peu près faire. Réinsérer, malheureusement, on est toujours à peu près en période, je dirais, de balbutiement.
Alors, si on décrit cette prison de la santé de l'intérieur, il y avait plusieurs ailes, c'est ça, qui se rejoignent dans un point central. Ça ressemble presque à des rayons de vélo, c'est ça ?
Voilà. Alors, c'est le quartier bas, celui des prévenus. Voilà.
Donc ceux qui sont en attente de jugement.
Voilà, ceux qui sont en attente de jugement, donc 500 places. C'est le quartier d'ailleurs qui est conservé. Hein. Donc celui-là, on n'y touche pas. Alors il va être un peu rafraîchi parce qu'il a souffert un petit peu évidemment du temps également. Alors là, c'est vraiment le régime pennsylvanien, c'est-à-dire effectivement les rayons. Voilà, donc un point central qui est un point de surveillance. Hein. C'est issu de la philosophie de Bentham, le panoptique. Tout voir d'un point central.
D'accord.
Voilà, hein, c'est-à-dire pouvoir tout surveiller, hein, de ce point central. Voilà. Ensuite, vous franchissez évidemment quelques dizaines de mètres et vous vous trouvez dans le quartier haut. Voilà. Alors celui qui a disparu, hein, puisque j'ai vu des photos récemment
avec les travaux actuels.
Oui, avec les travaux actuels, hein, puisque là depuis mai. Dernier, donc ça va faire un an, les travaux ont démarré.
Oui. Hein,
les travaux ont démarré.
Et alors, donc, quartier haut, c'était pour les détenus, c'est-à-dire ceux qui sont déjà condamnés.
C'était pour les condamnés. Donc le régime avec le travail dans la journée. Voilà. Et effectivement, au départ, il y avait du travail pour tout le monde. Hein. Il y avait toutes sortes d'activités. Alors, pas très lucratif pour le prévenu, mais le condamné, pardon, mais qui permettait, comme on dit, d'améliorer l'ordinaire. Améliorer l'ordinaire à la cantine. Hein, cantiner, je rappelle, pour ceux qui connaissent pas ce vocabulaire, hein, c'est pas nos cantines d'école aujourd'hui. Hein. Cantiner, ça veut dire s'acheter effectivement au magasin des vivres, comme on disait à l'époque, un certain nombre avec de produits de première nécessité. Voilà. Donc améliorer évidemment son sort. Donc si on travaille, évidemment, on a un peu plus à dépenser.
Dans cette prison de la santé, Michel Fize, il y a aussi des zones réservées à certains détenus, les politiques par exemple ?
Ah oui, alors il y a toujours eu effectivement un quartier politique, alors qu'aujourd'hui, aujourd'hui, avant la fermeture, on appelait plutôt le quartier des VIP. Donc des politiques qui ont quand même, globalement parlant, plutôt bénéficié d'un régime plus favorisé. Que les détenus.
C'est-à-dire plus d'espace, plus de.
Alors, c'est-à-dire plus d'espace. Oui, notamment de circulation. Bernard Tapie, par exemple, a été incarcéré à la Santé. De grands noms, Guillaume Apollinaire, le poète, a passé quelques jours, pas très longtemps, quelques jours. Léon Daudet. Donc le fils de qui l'on sait, voilà, qui lui a été, alors lui c'est assez extraordinaire, c'est une aventure, il a été libéré par le directeur de la prison parce que des complices s'étaient fait passer pour effectivement des représentants du ministère de l'Intérieur, voilà, et donc le directeur lui a ouvert les portes.
Encore d'autres anecdotes à découvrir sur l'histoire de la prison de la Santé, peut-être sur les mots qu'on y emploie, il y a un argot de la prison de la Santé, ce sera dans un instant. Restez avec nous sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL. Mesdames, messieurs, bonsoir. Et oui, Jacques Mesrine s'est évadé, l'ennemi public numéro 1, sorti de la prison de la Santé, en plein Paris, ce qui, bien sûr, est exceptionnel.
La curiosité est un vilain défaut.
D'abord, pourquoi vous êtes-vous évadé il y a 8 mois, vous ?
J'avais une course à faire.
Oh, comme c'est malin.
Jusqu'à 22h.
Patron, je suis prêt. Je vous accompagne.
Où ça ?
À la Santé ?
Ah, je vous demande pardon, cher monsieur, mais il faudra d'abord avoir commis quelques délits.
Ah, bah, s'il y a que ça, vous savez, en cherchant bien.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Un film qui date de 1934, c'est Messieurs de la Santé avec Rému dans le rôle principal. Et puis on a entendu évidemment aussi un peu d'actu, époque PPDA avec l'évasion de Jacques Mesrine. On en parlera dans un instant avec notre invité Michel Fils. Je rappelle que vous êtes historien, sociologue. Vous publiez un article dans le magazine Historia sur cette prison qui était modèle lors de sa création en 1867 sous le Second Empire. Je disais tout à l'heure qu'il y a un argot de la santé, c'est quoi ?
Oui, alors j'ai retrouvé quelques mots. Alors, évidemment, le classique, le gardien, c'était un gaffe.
Oui. Bon,
alors, qui est un mot, lui, complètement périmé. Aujourd'hui, c'est le maton.
Oui.
Le casier judiciaire, le grimoire mouchique, l'accusé, l'écorné, l'accusateur, le fargueur, le commissaire, le curieux, l'huissier, le requin de terre. Très très beau, le requin de terre. La correctionnelle, la carrée des petites gerbes.
La carrée des petites gerbes.
Les menottes, les alliances.
Ah, c'est joli.
Le commissaire, le curieux, nous sommes des commissaires, Thomas.
Voilà, on va se rebaptiser.
Voilà, et l'agent de police,
oui.
L'escargot de trottoir, la vache ou le flic.
Ouais.
Voilà, bon, ça, qui sont restés.
Donc,
et
là,
le ballon.
Ouais.
Le ballon.
Ça, je m'en souviens.
On a oublié,
de ce mot-là.
Mais effectivement, il y a encore une cinquantaine d'années, ouais. On allait au ballon.
Donc, ça, ce sont vraiment les mots, pour certains d'entre eux, qui sont les mots de l'époque, de 1867, les années 1870, la création de la prison de la Santé.
Tout à fait.
On se projette dans la façon dont on parlait avec
cette fonction du vocabulaire spécifique, qui n'est pas le vocabulaire français, qui est de ne pas se faire comprendre des autres. Voilà, donc c'était pour que les gardiens de prison, puisqu'on ne les appelait pas surveillants à l'époque, c'était des gardiens, voilà, puissent ne pas comprendre. Voilà, c'était un moyen de communication.
Michel Fils, cette prison de la Santé, elle n'est pas restée modèle très longtemps, à cause de quoi ? La surpopulation ?
Ah oui, là malheureusement c'est une équation parfaite, à tous les coups l'on gagne, l'organe crée la fonction, donc si vous destinez un établissement à l'enfermement, eh bien comme il n'y a pas de correspondance entre les capacités d'un établissement et la fonction judiciaire elle-même, le juge ne regarde pas s'il y a de la place ou pas, si effectivement tel ou tel mérite une peine de prison, à ses yeux, ben, évidemment il envoie en prison.
Ça veut dire qu'on met deux lits par cellule par exemple au lieu d'un ?
Oui, alors aujourd'hui c'est pire, puisqu'on met aujourd'hui des matelas pour évidemment compenser le manque de place. Et Mazas.
Alors Mazas, c'était rappelle, quoi ? Parce qu'on n'a pas raconté.
Alors Mazas était une prison neuve créée en 1851, et vous rendez compte, 16 ans après, on la ferme parce qu'elle est devenue surpeuplée, insalubre. Ouais. Donc la durée de vie. Dans des conditions normales d'un établissement pénitentiaire, c'est une quinzaine d'années.
C'était la même chose pour la prison de la Santé. Assez vite, c'est devenu...
Tout à fait.
C'est devenu vétuste et
déjà dans les années...
C'est monté jusqu'à combien
C'est monté jusqu'à 2000.
Donc on doublait la population.
Tout prévue. À fait, tout à fait. Mmh. C'est monté jusqu'à 2000. Et ça dépasse souvent. Alors c'est encore le cas aujourd'hui, d'une manière générale, hein, sur nos 200 établissements pénitentiaires à peu près, vous avez en moyenne 100 à 120% de taux de surpopulation.
Donc ça veut dire plus de détenus, mais pas plus de surveillants ? Ou une pénurie de surveillants en tout cas ?
Eh oui, bien sûr. Donc on se retrouve confronté toujours à cette même situation. Plus de détenus et moins de gardiens pour les surveiller.
Donc plus alors, d'insécurité.
D'où effectivement des contestations de gardiens. Je rappelle notamment dans le livre, en 1957, il y a eu une grève importante des gardiens de prison. Voilà. Ce qui ne leur était pas autorisé. Mais bon, ils en avaient assez, évidemment, de vivre cette situation où ils ne pouvaient plus assurer ni la sécurité, ni l'hygiène, évidemment, des détenus.
Ce livre dont vous parlez, il est publié aux éditions Buchet-Chastel. Vous y racontez aussi les histoires d'évasion célèbre. Vous nous disiez que la toute première, ils étaient passés par le tout à l'égout. Il y a aussi, on a entendu PPDA à l'instant, celle de Jacques Messrine. Il s'évade comment ? Jacques Messrine, vous en souvenez ?
Alors Jacques Messrine, bon, il s'évade avec des complices, mm-hmm. D'ailleurs un va rester malheureusement pour lui sur le carreau, à la sortie de l'établissement. Mais c'est pas, je dirais l'évasion la plus spectaculaire. Hein. Pense plutôt à celle de Vaujours,
ah oui,
par l'hélicoptère.
Bien sûr, que sa femme pilotait, c'est
tout
ça.
Tout à fait.
Alors on est en mai 1986, c'est
tout
ça ?
Tout à fait. En mai 1986. Alors il y aura d'autres tentatives d'ailleurs d'évasion par hélicoptère.
Mais c'est-à-dire qu'il s'est échappé quoi de la cour, c'est ça, grâce à une corde quelque
chose. C'est-à-dire oui, il faut grimper sur les toits, ouais. Il faut grimper sur les toits et puis ensuite avec un filin pendu évidemment à l'hélicoptère, on vous tracte vous pouvez sortir, ouais. Voilà, mais il y a toujours de l'imagination.
On peut toujours s'évader d'une prison ?
Ah oui, bien sûr, oui. Je crois d'ailleurs que pour le détenu, c'est un droit naturel de s'évader.
Le droit à la liberté.
Le droit
ça va faire grincer quelques dents et quelques oreilles, ce que vous venez de dire. Mais bon, il y a eu des exécutions à la prison de la Santé. C'était une prison où on guillotinait.
Ah oui, tout à fait. Alors, on a d'abord guillotiné, toujours la même chose, dehors.
Publiquement.
C'est-à-dire publiquement. Voilà, hein, c'était le côté, il fallait que les honnêtes gens voient ce qui arrivait effectivement aux voyous.
Mais
voilà.
Jusqu'à quand on faisait ça ?
Alors, la dernière exécution publique, hein, de mémoire, a eu lieu en 1934 à Versailles. Voilà, hein. Mais à la Santé, très vite, on a rentré la guillotine. Voilà. Et les dernières exécutions, donc celles dans lesquelles notamment Robert Badinter a été présent, puisque un de ses clients, Buffet-Bontemps, hein, la célèbre paire Buffet-Bontemps. Voilà. Donc les exécutions étaient cachées, à l'abri des regards. Voilà. Comme s'il y avait quand même quelque part une honte d'une punition qui, dans l'esprit d'ailleurs de nos concitoyens, reste quand même la punition avec un grand P. Mmh. Punir, c'est mettre en prison.
Michel Fils, la prison de la Santé est en travaux.
Oui.
Vous nous avez apporté un petit fascicule où on voit les plans, les photos de ce qu'elle pourrait devenir. C'est pour 2019.
Alors c'est en principe pour 2019.
Donc c'est tout le quartier des condamnés qui a été rasé.
Voilà. Alors ce quartier va être rasé. Alors il y avait aussi une obligation de se conformer aux directives européennes, hein, en matière notamment d'espace vital, d'espace cellulaire.
Ça veut dire qu'il y aura moins de détenus dans cette future prison de la Santé.
Alors il y aura moins de détenus. Alors il y a moins de détenus. Capacité 700 places plus 100 places de semi-liberté. Je rappelle. Ce sont des gens qui dorment la nuit en prison et qui vont travailler le jour et qui rentrent le soir dormir en prison.
Voilà, et on verra.
Donc il
si
reste
ça...
toujours 1000 personnes sur le carreau quand même, parce qu'il y avait 2000 personnes avant la fermeture.
Qui ont dû être placées quelque part. Merci beaucoup, Michel Fils. On vous lit
merci
dans le magazine Historien en partenariat avec RTL. Et puis votre livre, Une prison dans la ville, histoire de la prison modèle de la Santé, est publié aux éditions Buchet-Chastel. Merci encore.
Vous écoutez RTL.